Ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur enseigne la parabole de la semence à la foule venue l'écouter. Notre Seigneur a utilisé souvent ce procédé pédagogique pour plusieurs raisons. Saint Jérôme en donne une intéressante. Il fait remarquer que Dieu a créé le monde matériel avec tout ce qu'il comporte. Les astres, la terre avec tout ce qu'elle contient d'êtres vivants, et le monde surnaturel, le monde de la grâce. Ces deux mondes ont un rapport étroit entre eux. La création matérielle n'a pas été faite pour elle-même. Des secrets surnaturels y ont été enfermés. La création matérielle devait exister pour servir de vêtement et de symbole à un monde supérieur. Après avoir raconté la parabole, Jésus donne lui-même l'explication du rapport entre ces deux mondes. La semence, qui appartient au monde matériel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le monde surnaturel. Nous verrons d'abord quelle est cette semence, ses qualités, puis comment elle agit sur deux catégories d'âmes, et nous en tirerons quelques leçons. La semence. Pour comprendre le rapport étroit de cette comparaison entre la semence et la parole de Dieu, il faut remonter à la création du monde racontée dans la Genèse. Dieu dit que la terre produise les végétaux, les plantes portant semences, les arbres à fruits donnant pour chaque espèce les fruits avec leurs semences. Et cela fut ainsi. La parole de Dieu est souverainement efficace, puisqu'elle a communiqué à la semence des plantes une puissance de vie qui dure depuis des milliers d'années. Vous avez tous pris un gland dans votre main, il n'est guère plus gros qu'une bille. Imaginez qu'on ait filmé la croissance d'un gland qui est devenu un immense chêne plusieurs fois centenaire. Ensuite, on vous repasse ce film en accéléré, en quelques minutes. Vous verriez alors concrètement la puissance renfermée dans ce gland. Le premier gland, créé par Dieu, est à l'origine des milliers de tonnes de glands qui ont été produits à partir de ce premier gland, et des millions de chaînes qui ont existé depuis. Et ces millions de chaînes ont produit des milliers de tonnes de bois pour faire des meubles, des constructions, pour se chauffer. Et ce qu'on observe dans le règne végétal, on l'observe dans le règne animal, même chez l'homme. Un seul couple, Adam et Ève, a donné des milliards d'hommes. La parole de Dieu, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », a donné une puissance prodigieuse de vie à la semence. Une semence, quelle qu'elle soit, végétale ou animale, donne un aperçu dans le monde matériel de l'efficacité et du pouvoir vivifiant de la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé seulement le monde matériel. Il a créé aussi le monde surnaturel, le monde des anges, le monde des âmes qui doivent peupler un jour le ciel de gloire. Pour conduire les âmes des hommes à la vie éternelle, la parole de Dieu est également souverainement efficace. Cette parole de Dieu qui a tout créé, s'est incarnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Nous avons pu l'entendre, dit Saint Jean, de nos oreilles, nous avons pu le toucher de nos mains. Cette parole nous dit, en Saint Jean, ceci. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. L'apôtre Saint Paul est un exemple vivant de ce que la parole de Dieu peut produire sur le plan surnaturel. d'un persécuteur de l'Église, elle en a fait un des deux piliers sur lesquels l'Église s'est construite. La parole que Jésus dit à Ananie le jour de la conversion de Saul s'est réalisée à la lettre. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Je lui apprendrai, moi, tout ce qu'il doit endurer pour mon nom. Et nous avons entendu dans l'Épître tout ce qu'il a dû endurer. Les verges, les coups, les naufrages, etc. Tout cela, il l'a enduré pour le nom de Jésus, c'est-à-dire en le faisant connaître et aimer dans tout le bassin méditerranéen. Toute sa vie d'apôtre, il l'a consacré à annoncer la parole et à en expliquer les effets. Aux Hébreux, il enseigne que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui était invisible est devenu visible. Il leur explique que Dieu a parlé par son Fils, qu'il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a fait les mondes, qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Après avoir opéré la purification des péchés, il règne maintenant au plus haut des cieux. Cette parole de Dieu est vivante et efficace, dit-il. Elle est plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle démêle les pensées et les intentions du cœur. Et saint Pierre, à la même époque, enseigne la même chose, que nous avons été régénérés par la parole de Dieu qui vit éternellement. Et cette parole, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette parole de Dieu, souverainement efficace, doit être semée sur tous les terrains, c'est-à-dire annoncée à toutes les âmes. C'est pourquoi, dans la parabole, le semeur, c'est-à-dire Jésus, sème partout. Il sème sur le chemin, il sème sur la pierre, il sème dans les épines, et enfin, il sème dans la bonne terre. Sur le plan naturel, ça n'aurait pas de sens. On n'a jamais vu un semeur semer sur les chemins, ni dans les épines, ni sur les pierres. Mais quand il s'agit des âmes, cela procède d'une haute sagesse. Alors voyons maintenant deux catégories d'âmes qui reçoivent la parole de Dieu. Premièrement, le grain semé le long du chemin. Ceux qui sont le long du chemin, dit notre Seigneur, sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Pour qu'elle porte du fruit, la parole de Dieu a besoin de profondeur. Elle doit descendre dans notre cœur et être l'objet de notre méditation. Prenons la comparaison chère à sainte Thérèse d'Avila, qui compare notre âme à un château composé de 7 demeures. Dieu demeure dans la 7e demeure au centre de l'âme. L'âme superficielle vit à l'extérieur du château. C'est plus intéressant. Là où passent toutes sortes de gens, des courtisans, des troubadours, des marchands. Si cette âme a entendu la parole de Dieu à l'église du village ou à la chapelle du château et ne rentre pas à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire ne rentre pas à l'intérieur du château, pour méditer en présence de Dieu l'enseignement reçu, mais va aussitôt après dans le parc du château, discourir avec les uns, avec les autres, s'enquérant des nouvelles du monde, prenant part aux divertissements qui s'y donnent, le diable enlèvera de son cœur la parole et elle ne portera pas de fruit. Pour progresser dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de s'approcher des sacrements, de faire sa prière du matin et du soir. Il faut consacrer un peu de notre temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, à méditer les vérités révélées par Dieu. Cette méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'oraison, tout simplement. Cette oraison, dit Dom Armion, va mettre dans notre âme les dispositions favorables à la réception fructueuse des sacrements. En effet, l'oraison maintient notre âme dans un contact fréquent avec Dieu. Elle entretient dans l'âme un foyer dans lequel le feu de l'amour couve toujours. Et c'est ce feu qui couve s'embrasera dès que l'âme sera en contact direct avec la vie divine contenue dans les sacrements. L'oraison n'est pas réservée aux religieux, aux prêtres. Saint Alphonse de Ligorie la déclare moralement nécessaire. Moralement nécessaire. Elle est nécessaire, dit le père Garrigou Lagrange, pour réformer notre vie, la surnaturaliser, en la rendant plus conforme à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors qu'elle portera du fruit. Plus on est uni à Jésus, plus, eh bien, la sève contenue dans le cep de la vigne va s'écouler dans les sarments et produire des raisins. Alors, chers fidèles, si vous n'avez pas encore mis dans votre vie le petit temps de méditation quotidienne, il est temps de commencer. Le grain semé sur la pierre. Il y a des âmes qui sont semblables à de la pierre compacte, que l'égoïsme ou les circonstances de la vie ont repliées sur elles-mêmes. Pour que la semence puisse germer, pousser des racines et grandir, il faut que la contrition brise d'abord la dureté de leur cœur. Prenons un exemple vécu pour faire ressortir ce travail. Il s'agit de la vie d'André Levé, le bandit converti. André Levé se retrouve sans famille à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est encore jeune, entre 10 et 15 ans. Il tombe dans la délinquance. Alors qu'il est à Laval pour préparer un coup, il rencontre pour la première fois de sa vie un prêtre en soutane qui passe sur le trottoir d'en face. Il est interloqué. Il va l'interpeller, traverse la rue, pour lui demander la raison de cet accoutrement. Le curé, qui avait cru sa dernière heure arriver, lui dit dans la conversation « Mon caïd à moi, c'est Dieu ». Et finalement, il lui laisse son adresse. Après bien des péripéties, cambriolage, prison, évasion, trafic de drogue, André est arrêté et condamné à 21 ans de prison ferme. Il est incarcéré à Clairvaux et comme il est dangereux et cherche sans cesse à s'évader, on le transfère à Château-Thierry dans une prison moderne où il est impossible de s'évader. André est athée, il n'a aucune formation ni culture religieuse. Pendant sa longue détention, le curé rencontré à Laval ne l'a pas abandonné. Il lui écrira une lettre tous les mois, pendant des années. Il lui a offert un bel évangile relié et l'encourage à le lire. « André, adresse-toi à Dieu, car il est bon. » À force d'insistance, André finit par l'ouvrir de temps en temps. Puis il le remet dans un coin, il reste des mois sans l'ouvrir. Il tombera pour la première fois sur l'épisode des noces de Cana. Ensuite, ça sera la Samaritaine. Puis, les miracles de Jésus. Les années passent. Il ne comprend rien à tout cela. Cependant, il aura retenu que Jésus a fait le bien partout où il est passé. Alors, un jour que son curé lui dit d'ouvrir l'évangile, il tombe sur la passion. Alors, il se révolte. Il se pose la question de l'existence du mal et il répond à son curé « Je ne peux pas croire à une telle histoire. Comment faire tant de mal à un homme qui a fait tant de bien ?» Le curé, fin psychologue et très surnaturel, lui répond André, c'est toi qui as fait cela. » Alors André entre dans une colère terrible, heureusement que son curé n'était pas là. Il jette l'évangile dans un coin. La contrition n'a toujours pas brisé son cœur. Alors désormais, il va réfléchir, il va dans sa tête à tous les moyens possibles de s'évader. Mais on ne s'évade pas de Château-Thierry. Et il en fait part à son curé, et son curé a une idée. Il lui dit, « André, adresse-toi à Jésus, il peut te faire évader. » Alors André prend cette réponse au niveau matériel. Il adresse cette demande à Jésus, le 11 juin 1969. « Jésus, si tu existes, si tu es si fort, viens me voir dans ma cellule à 2h du matin. » 2h du matin, c'est l'heure où les gardiens sont assoupis. Il n'y a pas d'autre heure plus favorable pour s'évader. Et il s'endort, il fait une bonne nuit. À 2h du matin, il est secoué de son lit. Il croit que c'est le gardien, il se fâche et il entend une voix qui lui dit « André, il est 2h, ne sois pas incrédule, je suis ton Dieu. » Il cherche partout d'où vient cette voix et une lumière éclaire la cellule, les murs disparaissent derrière cette lumière et la voix lui parle de nouveau. Et Jésus lui apparaît. Il se montre avec ses blessures. André, c'est aussi pour toi. Alors André tombe à genoux en larmes. Il va rester ainsi à genoux en larmes de 2h à 7h du matin, repassant toute sa vie de péché. Au petit matin, il est converti. Il n'a plus besoin de s'évader. Il passera les 6 dernières années de prison qu'il lui reste à faire à se former chrétiennement. Et son curé, là, va pouvoir l'aider d'une manière beaucoup plus rapide. Et enfin libéré, il aurait souhaité devenir prêtre, mais vu son âge et vu le peu de formation qu'il a intellectuelle, c'est pas possible. Alors il va prêcher Jésus-Christ en donnant des conférences dans tous les milieux où il va aller, le milieu des paroisses, et puis dans les prisons. Il va raconter sa conversion et il va parler de Jésus. Se pouvait-il trouver pierre plus dure que son cœur ? La parole de Dieu a vaincu cette dureté. Son âme est devenue une bonne terre qui porta beaucoup de fruits. À nous aussi, Jésus nous montre ses plaies. Quand nous méditons les mystères douloureux du chapelet, les stations du chemin de croix, quand nous assistons à la Sainte Messe, qui est le sacrifice du calvaire rendu présent sur nos autels, il nous dit comme à André, « C'est aussi pour toi que j'ai souffert cela. » Est-ce que des larmes de contrition sortent de nos yeux à la pensée de nos péchés passés ? Sommes-nous résolus à ne plus offenser Jésus, notre Sauveur, par le péché mortel, par le péché véniel délibéré? Si vous entendez sa voix aujourd'hui, nous dit le psalmiste, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la tentation dans le désert, où vos pères, bien qu'ayant vu mes œuvres, m'ont offensé. De peur que ne marchant pas dans les voies de Dieu, vous n'entriez dans son repos, c'est-à-dire dans le ciel. Alors demandons à Dieu, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, la grâce de rendre bonne la terre de notre âme. Alors nous produirons, comme dans l'âme d'André, du fruit dans la patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.